RCI.
Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 1h. Ici, soutient la musique locale.
L'artiste toulousain Robin Arnaud, c'est facile.
C'est facile d'avoir peur, de s'ennuyer quand on est tout seul.
Robin Arnaud, un auteur-compositeur-interprète qui séduit par une écriture lumineuse et une sensibilité très personnelle. Une voix douce mais ancrée, portée par de belles mélodies. Une voix qui explore avec finesse les émotions qui traversent nos vies, les élans, les fragilités, les reconstructions.
Mais des fois c'est fragile comme belle, l'envie d'exister. Et cette planète aussi grande soit-elle, on ne fait qu'y passer. On ne fait qu'y passer.
Robin Arnaud, c'est facile, un coup de cœur ici Occitanie.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Limousin.
Magali, taxi TPMR à Limoges.
Les Limousins sont formidables. Stéphane Pigato.
J'ai fait des études en sanitaire et sociale. C'était le métier de ma maman, qui était aide à domicile. Quand j'ai eu l'âge de travailler, j'ai fait des remplacements avec elle les étés. Je travaille pendant mes études, je fais mes études, j'ai les examens, et puis j'ai travaillé dans des hôpitaux, des maisons de retraite, à domicile. J'ai fait mes premières expériences professionnelles aussi à domicile. Et c'était juste parfait, en fait. J'aimais être avec les personnes âgées, j'étais là pour elles, dans leur quotidien, donc moi ça m'allait.
D'accord, jusqu'à 25 ans vous faites ça. Et qu'est-ce qui fait changer le parcours finalement de vie?
C'était pas des CDI en fait, donc j'étais à durée déterminée, donc il fallait que je trouve quand même à un moment donné un travail qui allait m'aider à vivre pour le reste de la vie.
Vous avez déjà des enfants à cette époque ou pas?
Ah non, du tout.
Non.
Du tout. Mais j'envisageais, il fallait que j'envisage un métier qui allait m'aider à construire une vie. Et j'ai accepté en fait une nouvelle formation qui n'était pas du tout dans le même domaine parce que c'était parti dans l'industrie électronique.
D'accord, oui, vous changez complètement de...
Complètement.
Qu'est-ce qui vous plaisait là-dedans? C'était le hasard ou c'était...
Ah, ça a été le hasard en fait. C'est le métier qui m'a trouvé. J'ai suivi une formation, j'ai eu les examens, j'ai fait de l'apprentissage. Et après, du coup, j'ai travaillé 20 ans avec eux. Je fabriquais des cartes électroniques. C'était moi qui les fabriquais. J'étais sur la chaîne, sur des machines.
Et alors là, qu'est-ce que vous vous dites? Parce que c'est pas du tout dans ce que vous vouliez faire, l'aide à la personne, et puis on se retrouve à travailler à l'usine, à la chaîne.
Non, mais l'électronique est très intéressant, donc ça m'a comblé pendant 20 ans.
D'accord, oui, ça vous a pas. Le changement n'a pas été si brutal que ça,
non.
Finalement.
Non. J'ai comblé pendant ces années-là en faisant de l'associatif, lié à mes enfants, dans le sport.
Et comment arrive ce second changement?
J'en avais pas marre de l'usine, c'est les maladies professionnelles qui m'ont amené là.
C'est des circonstances de vie qui font que finalement vous changez, quoi.
C'est ça.
Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans la tête de Magali, qui a un métier visiblement qui lui plaît, dans l'électronique, et qui se dit, va falloir changer?
C'était la santé d'abord, donc il a fallu rebondir et trouver un nouveau métier. Je suis forcément revenue sur l'aide à la personne. C'était d'abord l'aide à domicile, après le transport. J'ai essayé d'allier les deux et le transport de personnes à mobilité réduite est arrivé.
Et puis arrive donc le transport, le taxi, ce que vous faites aujourd'hui. Ça c'est pareil, c'est pas forcément une évidence de se dire je vais devenir taxi. Comment ça arrive dans votre vie?
C'était la meilleure solution pour pouvoir allier les deux. Donc je suis devenue taxi de Limoges. Un collègue m'a dit que ce métier m'allait comme un gant, donc c'est un beau compliment, on continue. Parce que le transport de personnes en fauteuil, c'est quand même bien particulier. On n'amène pas des gens que d'un point A à un point B. On rentre dans leur domicile, on les aide à se préparer, à pouvoir monter dans notre véhicule et à l'arrivée, c'est la même chose. Il faut les aider.
Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce métier aujourd'hui?
C'est le fait d'être présent, d'être utile pour eux et de les aider à vivre normalement.
Mais qu'est-ce que ça change finalement par rapport à un taxi normal?
On est bien plus utile dans leur vie en fait. On leur permet vraiment des choses qu'ils ne pourraient pas faire si on n'était pas là.
Et aujourd'hui, vous êtes heureuse comme ça?
Très, je ne changerai rien. Il va falloir qu'ils me supportent encore longtemps.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Braise-Izel.
Un début de conversation pour vous aider dans l'apprentissage de la langue bretonne aujourd'hui et puis après un nom de famille qui permet de faire front.
Le petit cours de breton.
Alors, c'est pas évident d'apprendre la langue à la radio. J'essaie de vous donner quelques clés chaque jour, mais pour ça encore faut-il être à l'heure pour écouter les chroniques. Donc, pour ne pas rater l'heure, il y a une question que vous devez connaître. Une phrase. Pédere. Je suis sympa, c'est une phrase courte. Trois mots. Pédere. Et, ou EO, si vous voulez. C'est facile à traduire, c'est quelle heure est-il ? Ped, c'est un mot interrogatif qui signifie combien ? Ped. À retenir, évidemment, ça sert dans plein d'utilisations. Pédere, quelle heure ? Et à la fin, EO, c'est une des formes du verbe être en breton conjugué. Pédere, EO, pédere, quelle heure est-il ? Retenir cette phrase vous permettra de ne jamais rater vos rendez-vous de toutes sortes et surtout vos rendez-vous radiophoniques. Pédere, EO, quelle heure est-il ? Alors pour répondre, s'il est midi par exemple, bah vous répondrez Christeis EO. Midi, il est. Et on n'oublie pas le verbe à la phrase, on ne dit pas juste Christeis, on dit Christeis EO. Pédere, EO, quelle heure est-il ? Christeis EO. Il est midi. Bon, dites pas ça une autre heure qu'à midi, ça marchera moins bien.
Nom d'un petit breton.
Et un patronyme frontal aujourd'hui, ou un nom qui fait front, comme je vous le disais, ou même plusieurs. Taldir ou Talourne ? Deux mots commençant avec le préfixe tal, T-A-L. Et tal, qui n'est pas la chanteuse en breton, a plusieurs sens. En premier, c'est le front humain, évidemment, tal, antal, le front, tal, antal et begarpen, le front en haut de la tête. C'est mieux s'il est là, d'ailleurs. Et donc, si votre nom de famille est Taldir ou Talouarn, eh bien, mieux vaut ne pas donner de coup de tête au risque de casser celle d'en face, car Taldir veut littéralement dire front d'acier, rien que ça. Et Talouarn, c'est pas en reste non plus. Talouarn, c'est le front de fer. Alors encore un nom ramenant une époque où les hommes se faisaient remarquer sur les champs de bataille ou dans les mêlées. Et les Taldir ou Talouarn étaient visiblement pas mauvais pour donner ou amortir les coups. C'est pas une raison pour faire pareil. Moi je vous dis à demain, même heure.
Le petit cours de breton à podcaster sur ici.fr et sur l'application ICI.
ICI, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ICI Vaucluse.
Je suis sûr que vous êtes déjà passé devant le château du Barou, sauf que le château du Barou, sans un homme, il serait aujourd'hui inexistant, détruit, entièrement détruit. C'est André Vaison de Pradennes qui l'a sauvé. Il arrive en Vaucluse au début du 20e. Très vite, il s'enracine, il devient conseiller municipal, conseiller départemental, puis maire de Murs pendant près de 4 mandats. André Vaison de Pradennes, c'est un homme public, engagé, décoré de la Croix de guerre 14-18, chevalier de la Légion d'honneur, et c'est surtout un sauveur de pierre. 3 châteaux vont marquer son existence. D'abord, celui de Murs, dont il devient propriétaire. Ensuite, il y a le château de Javon sur son plateau forestier. Et puis, il y a donc le Barou. L'histoire la plus spectaculaire, quand il prend possession au début du siècle, eh bien, le château féodal est dans un état catastrophique. Les guerres, les pillages et l'incendie de 1929 ont tout dévasté. Je vous renvoie d'ailleurs à la chronique consacrée sur l'histoire du château du Barou. Et là, donc, André Vaison de Pradennes va se lancer dans une reconstruction titanesque. À l'époque, pas de subvention, pas de mécénat, hein, tout est à ses frais. Et sur 10 ans, il fait travailler 10 maçons pendant 10 ans. On va consolider les murs, refaire les toitures, dégager les salles, restaurer les escaliers. Il va redonner une silhouette, une sorte de colonne vertébrale à ce château qui domine les dentelles. Et c'est ce gros travail, notamment la nouvelle toiture en béton, qui va permettre au château du Barou de survivre lorsqu'il y aura un second incendie en 1944 pendant la Seconde Guerre mondiale. Sans ces travaux-là, eh bien, le château qu'on visite aujourd'hui n'existerait plus. Et puis il y a aussi cette autre facette moins connue. André Vaison de Pradennes était un passionné de préhistoire. Ses travaux aujourd'hui font encore référence. En fait, il a longuement étudié les ateliers préhistoriques autour de Murs grâce aux paysans qui lui rapportaient leurs trouvailles contre quelques pièces. Une grande partie aujourd'hui de sa collection a été donnée au musée d'Orsay et c'est loin d'être fini. Aujourd'hui, une biographie est actuellement en préparation par son petit-fils Jean-Baptiste Vaison en collaboration avec un archéologue. Mais la vie d'André, elle, se termine tragiquement. Il meurt accidentellement à Paris, intoxiqué au monoxyde de carbone dans son appartement avec son épouse et sa fille. Seul son fils survit et c'est ce fils qui va prolonger l'esprit du père en protégeant les propriétés familiales. Et aujourd'hui, donc, c'est son petit-fils, Jean-Baptiste, avec Fanny, qui poursuivent eh bien, cette histoire au Barou, notamment avec la création du premier whisky du Vaucluse, élaboré à l'intérieur même du château.
Ici,
actu locale, musique et bonne humeur.
Sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Poitou.
La phrase que mes parents, je voudrais plus qu'ils disent, bah c'est non. Et aussi, dépêche-toi.
Moi, j'aimerais bien que ma mère, elle arrête de m'appeler des noms un peu de bébé. Parce que souvent, elle m'appelle gros prout, je sais pas pourquoi. Et souvent, elle m'appelle mon petit chat, mais j'aime un petit peu. Mais normalement, c'est mon père qui m'appelle comme ça. Et aussi, mon père, il m'appelle ma princesse.
Il y a deux phrases que j'aimerais supprimer complètement, c'est « Non, tu ne peux pas regarder la tablette, la télé. »
Moi, je voudrais qu'ils arrêtent de me dire « Stop, arrête de regarder des écrans. »
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts.
Une pluie d'aumoise aujourd'hui, elle était tournequoise. Bonjour Cécile.
Bonjour.
Merci de nous accueillir avec ce petit thé. À la fleur de cerisier, a priori.
Avec plaisir.
Et ces petites gaufrettes, hein, bien appétissantes. Vous êtes née dans le département 59.
À Tourcoing. Et
une maman belge, papa belge également.
Un peu, à moitié, voilà. Et ma maman plutôt flamande et mon papa plutôt wallon.
Quel souvenir est-ce que vous gardez de votre enfance, donc soit à Tourcoing, soit... Très vite, donc, à la campagne.
Oui, à Rugy, ouais. Un petit village de 1200 habitants, je crois. Et on habitait à 2 km dans un petit hameau, le hameau de Belzanois, qui existe toujours. Mon papa habite toujours là-bas. Et bah, en fait, les souvenirs, moi, c'était, on était dehors tout le temps, dans le jardin. Souvenirs de photos de la construction du garage.
C'était sur un territoire frontalier.
Oui.
Avec la Belgique.
Ouais. À 2 km donc, du centre du village. Il y en a beaucoup qui travaillaient ou qui travaillent en Belgique. Il y a l'Elnon, une petite rivière qui fait la frontière aussi.
Il y a un petit pont.
Voilà, et donc du coup, bah, cette rivière tout le long, et tous les endroits où on pouvait passer en voiture, il y avait un poste de douane.
Et là-bas, pas de tabac, pas de devises étrangères.
Non, monsieur le douanier, absolument rien.
Si ça pète, hein. Allez, au bloc.
On allait de l'autre côté du petit pont, c'est Louvet, un tamilier, un café. Chaque fois que j'y retourne, je vais me promener là-bas.
Enfin. Et oui, forcément, vous vous ressourcez, là où vous avez, où vous avez grandi. Vous passiez beaucoup de temps dehors, mais à faire quoi? Vous êtes dans l'observation. Vous êtes
j'étais un garçon manqué, j'étais la petite dernière, donc j'ai souvenir d'avoir fait des cabanes dans le pommier avec mon frère. C'est rigolo, j'étais souvent à pieds nus en fait, je me souviens de ça.
Et aujourd'hui, la Cécile que vous êtes, elle marche encore pieds nus?
Pendant des années, j'ai oublié ça, c'est drôle, ouais. Bah, c'est peut-être quand j'avais 47 ans que j'ai commencé à... Même dans des parcs ou ici, au jardin partagé, parfois quand il est ouvert, et ben, quand l'herbe est fraîche l'été, j'enlève mes chaussures.
On dit que c'est très bon, hein. On dit que c'est très bon pour la santé, de ressentir le sol avec, avec la plante des pieds. Bon, je me permets de goûter cette petite gaufre.
Ah oui, avec plaisir, oui.
Merci. Donc,
là, c'est du coup cassonade. Elle est noire.
Ah, c'est une cassonade aussi.
Ouais. Processus, en fait, la cassonade, moi je croyais que c'était non raffiné, mais en fait c'est hyper raffiné, c'est recuit.
Ça vous rappelle votre enfance?
Oui, complètement.
C'était le petit-déj?
Ouais. Non, ça c'était ces gaufres-là, les gaufres frites-là. Découvert quand j'étais jeune adulte, qu'il y avait une dame qui en fabriquait à un kilomètre de chez nous, en France. Du coup, t'es allée voir en vélo pour trouver, et en fait c'était chez elle. Je faisais des tartes au sucre avec ça.
Et on dit tarte au sucre.
Ouais, oui, tarte au sucre.
Au sucre, avec l'accent. Ouais.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Belfort-Montbéliard.
Quand on passe le rideau, ça sent le pop-corn, il y a de la lumière qui clignote de partout. Et les gens, ils retombent en enfance et ils s'attendent vraiment pas à trouver ça dans une maison.
Ici Belfort-Montbéliard, les comptoirs qui comptent.
Elle, lui, a troqué tout simplement des cartons de souvenirs pour un musée privé de 45 mètres carrés dédié à la piste étoilée. C'est Thomas Joly. Thomas, d'où vous vient cet amour pour la piste étoilée et pour le cirque ?
Alors que c'est une passion qui me suit depuis que j'ai à peu près 6 ans. Tout a commencé bêtement par une visite à des animaux dans un cirque qui passait à Mèche. Et c'est là que l'amour pour le cirque a commencé. Depuis de nombreuses années, je collectionne pas mal d'objets et de documents concernant le cirque. Et en fait, tous ces objets, ils étaient enfermés dans des cartons. Et donc, j'ai décidé de leur laisser la place qu'ils méritent et de les mettre en lumière et en valeur.
Mais alors, du coup, comment on organise sa maison ? Parce que j'imagine que plein d'objets, il faut donner des sortes de fonctionnalités, trouver la bonne place. J'imagine que ça se met pas en place du jour au lendemain, Thomas Joly.
Non, pas du tout. En fait, quand on a construit notre maison, on a tout aménagé le dessus du garage. Donc, on a rehaussé le dessus du garage. Et ça m'a permis de récupérer une pièce de 45 mètres carrés qui est aménagée du sol au plafond, 100% cirque.
Le Thomas Joly qui était en train de mettre en place, en tout cas, ce cirque à la maison, de mettre en place ces objets, c'était quoi ? C'était Thomas Joly adulte ou c'était l'enfant qui a eu ce choc psychologique qui a mis en place tout ça ?
On va dire un peu les deux. On va dire le Thomas petit parce que j'ai retrouvé beaucoup de choses que je gardais depuis tout petit. Et le Thomas adulte qui a pris soin de tout bien exposer, de tout mettre en lumière, de tout dépoussiérer, de tout mettre en place pour que ça soit vraiment un vrai musée privé.
Est-ce que il y a une pièce, quelque chose en particulier dont vous êtes le plus fier, ou alors peut-être une pièce, un objet que vous aimeriez ou rêveriez d'avoir chez vous?
En pièce que j'ai récupéré récemment chez un monsieur qui liquidait son musée. J'ai récupéré une très vieille affiche du cirque Pinder qui date de 1930. Donc il y a une affiche en papier journal écrit avec de l'encre très bien écrit. C'est vraiment joli. Et en plus récent, j'ai récupéré deux blasons en métal, pareil du cirque Pinder, qui étaient édités en très peu d'exemplaires. Et il en reste très peu dans toute l'Europe en état exceptionnel comme je les ai aujourd'hui.
Quand des amis, des proches à vous poussent ou ont poussé pour la première fois la porte de ce bel endroit, ça a été quoi les réactions ?
Les gens, ils disent que je suis fou. En fait, vous rentrez par la porte et il y a un petit sas avec des rideaux en velours. Vraiment comme dans un cirque, on a vraiment l'impression de rentrer dans un cirque. Et quand on passe le rideau, ça sent le pop-corn, il y a de la lumière qui clignote de partout. Et les gens, ils retombent en enfance et ils s'attendent vraiment pas à trouver ça dans une maison.
À vous, je cours. Thomas Joly a réalisé son rêve d'enfant en transformant une partie de sa maison en un véritable musée du cirque. Une immersion sensorielle unique entre des rideaux de velours de pop-corn. Tous les comptoirs qui comptent sont à retrouver sur notre application ici.
Vous écoutez ici.
Elle a poussé la table basse et monté le son à fond. Il faut bien faire de la place pour virevolter dans un petit salon. Des bonds sur le canapé, sans complexe, elle se déchaîne. Ce qui bloque, elle laisse aller. Frustration, remords, ce qui peine et freine, elle danse. Elle danse pour tout envoyer valser. Elle danse. Qu'elle devrait plus souvent danser. Sa fille entrée par mégarde surjoue la consternation. Les ados, quand ils nous regardent, adorent lever les yeux au plafond. Elle grimace que c'est gênant. J'aime le sourire qu'elle retient. Elle ne résiste pas longtemps quand sa mère l'entraîne par la main. Elle vient. Avec ENT, elle pense. Elle pense qu'elle devrait plus souvent danser. Elle
voisin, chez lui en face, espionne le ballet domestique. Même s'il entend sur tous les basses, va pour se plaindre de la musique. Mais les deux folles qui s'agitent ont l'air si libres, si heureuses, qu'il en tape du pied en rythme. Les folies sont contagieuses. Il danse. Il danse. Lui, ça s'appelle guincher. Il pense. Il pense qu'on devrait plus souvent danser.
De rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Périgord.
Tout ce qui a trait au caractère des humaines et des humains, j'adore. Je trouve que la langue occitane se délecte à qualifier les comportements humains. Roumé, je savais que tout le monde connaît Kaomo. C'est un bon exemple. Hein. Tu pourrais faire un sourire plutôt que de roumé. Roumé. Comme ce mot l'indique dans sa construction, ça grogne, ça fait trembler les murs. Quelqu'un qui roume, c'est un râleur d'excellence. T'as voulu faire les courses ? On y est. C'est plus le moment des roumas, mon grand. Ce n'est plus le moment de râler, ok ? Plutôt que de roumer, on finit vite et on rentre. Roumer, ok ? Vous connaissez, bon. Et si je dis marouné, marouna, c'est la même chose. Dans le mot, le R roulé nous montre une personne qui râle aussi, qui bougonne. Il marronne comme un burga au kevonvou, non. Il râle comme un frelon qui vrombit. Roumé, marouné, faites vos courses, mesdames et messieurs. Allez, adieu.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts.
C'est un événement littéraire dont on vous parle dans Toujours à la page, la sortie du nouveau roman de Marion Fayol, autrice et illustratrice dromardéchoise, plusieurs fois primée au Festival d'Angoulême. Marion Fayol a rencontré l'année dernière un immense succès avec son premier roman poétique et poignant, Du même bois, dans lequel elle évoquait l'histoire d'une ferme ardéchoise, génération après génération. Petit fruit, c'est le nom de ce second titre, est paru chez Gallimard. Et c'est l'histoire d'une femme à qui, mois après mois, la nature refuse d'offrir un enfant. Tandis qu'elle brasse questionnement, chagrin, culpabilité, son mari reste imperméable à ses émotions. Jusqu'au jour où s'impose chez eux un inconnu. Un étranger, un homme qui dit pourtant reconnaître en la femme son amour de jeunesse perdu. D'ailleurs, c'est étrange, ses mains à lui sont de la couleur de la robe de la femme. Et il ne cesse de vouloir la dessiner, la croquer sous tous les angles. En résulte un curieux ballet, un poétique triangle amoureux auquel nous allons assister. Marion Fayol.
Le livre parle en effet du désir d'enfant, même si je pense qu'il parle du désir, du manque, de l'absence, de manière peut-être beaucoup plus large que simplement le manque de l'enfant. En tout cas, cette femme, elle est en proie à une forme d'obsession. Chaque mois, elle a envie d'avoir un bébé dans le ventre et chaque mois, c'est un échec. Et dans son couple vient apparaître une sorte d'étranger. Donc, elle attend un enfant et l'enfant n'arrive pas. Et il y a quelqu'un qui vient se glisser dans leur maison alors même qu'ils essaient de le rejeter. Donc, c'est aussi une sorte d'ambivalence entre ce qu'elle désire et qui vient pas et ce qu'elle rejette et qui vient. Et pour moi, les trois personnages du livre sont tous des personnages qui sont un peu enfermés. Ça m'intéressait d'avoir trois personnages qui finissent par se parler par quelque chose de commun. Et ce commun, je pense qu'il est à la fois la question de l'obsession et la question de l'absence ou du manque ou du fantasme aussi.
Il y a quand même quelque chose d'un peu surnaturel qui relève du conte ou de la poésie dans ce que vous écrivez.
Quand j'écris, je me sens proche de la poésie plus que du roman d'une certaine façon. Et c'est très important pour moi que l'espace du livre, comme dans l'espace des dessins, soit pas exactement l'espace de la réalité, en tout cas que il y a toujours une part de symbolique ou de surréalisme qui viennent créer un espace qui est celui du livre et qui est un petit peu à côté du réel pour peut-être être plus réel que le réel. Et c'est important pour moi que mes livres contiennent plusieurs discours, enfin qu'en tout cas on puisse les lire. Et puis on puisse les relire et puis encore les relire comme s'il y avait plusieurs couches et que le lecteur puisse aussi glisser sa propre voix à l'intérieur de ce que je propose.
On ne sait précisément où l'action se déroule, ni à quelle époque, mais comme toujours avec Marion Fayol, la nature est partout. Elle traverse les personnages et son écriture pose des images, des émotions, un rythme aussi. Elle offre comme un moment en suspens, hors du temps. Marion Fayol révèle une nouvelle fois que son talent d'écrivaine n'a rien à envier à celui de dessinatrice dans ce Petit Fruit, paru chez Gallimard.
Écoutez Ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast Ici Picardie.
C'est la Camille Minute, votre chronique de la joie et de la bonne humeur. Aujourd'hui, on va parler des red flags. Alors, c'est quoi un red flag ? Un red flag, c'est littéralement un drapeau rouge. Dans la vraie vie, ça veut dire attention, danger. Fuis, cours, ne réponds pas à ce message. Le red flag, c'est le petit signal que ton cerveau voit, mais que ton cœur ignore, en disant non, mais ça va, je gère, on va gérer. Le red flag, c'est pas encore une catastrophe, c'est l'annonce de la catastrophe. C'est le teaser du film d'horreur. Il dit. Je suis pas jaloux. Par exemple, si le mec il dit je suis pas jaloux, mais il connaît l'heure de ta dernière connexion avant tout le monde, il est jaloux. Ok ? Si elle te dit ah mais moi je suis très cool, mais qu'elle fouille dans ton téléphone même quand il est éteint, elle est pas cool. Un red flag, c'est pas un défaut, c'est un avant-goût du problème. C'est quand quelqu'un te dit ah moi je suis comme ça, et que toi au lieu de partir tu réponds ah bah parfait. Non, fuis, cours. Bref, les red flags, c'est simple. Si tu te dis ça va sûrement passer, eh ben ça passera pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors maintenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lister, parce que l'être humain va toujours trop loin, des red flags vraiment exagérés, des red flags qu'on voit sur les réseaux sociaux qui sont vraiment, ça va beaucoup trop loin. Une fois j'ai vu une vidéo, il y a une nana, elle a sorti. Moi j'ai un red flag, mon red flag, c'est les mecs qui tiennent la barre du métro dans le métro. Donc maintenant en fait, faut choisir entre tomber par terre ou être célibataire. Il y a un mec, il a dit, une fille qui finit son assiette, c'est un red flag. Frérot, elle a juste faim, hein. C'est pas toxique, c'est la dalle, ça s'appelle. Après il y a des red flags, il y a quelqu'un qui dit ouais. Moi, mon red flag, c'est quelqu'un qui met son réveil à 6h du matin, même le week-end. Excuse-le d'être pauvre, hein, il veut bosser, ce monsieur-là. Il y a quelqu'un qui a dit, voilà, moi, mon red flag, une personne qui aime l'eau plate. Donc, en fait, si t'aimes pas les bulles, t'es toxique, quoi, t'es dangereux. J'ai vu aussi, mon red flag, c'est quelqu'un qui répond trop vite au message, ou trop lentement. Le bon timing, c'est jamais bon, quoi. Il y a un mec qui l'a dit, moi, mon red flag, c'est une fille qui dit, on verra. C'est pas un red flag, ça. C'est une promesse honnête. Et j'espère qu'elle le verra pas, le mec. Hein. À ce rythme-là, respirer va devenir un red flag. Bientôt, il aspire par le nez, c'est un red flag. Les gens, ils veulent plus une relation, ils veulent un CV sans défaut. Et même là, ils trouveront un red flag dans la photo. Avant, on cherchait l'amour. Maintenant, on cherche la faute. C'est bien ça le problème.
Ici,
actu locale, musique et bonne humeur.
Every time I think I've had it.
On prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ICI Cotentin.
T'as tous mes petits bébés, mes petits semis. Tu vois, je les ai foutus dans la couveuse, là, puis je suis en train de repiquer toutes les variétés. Cacao, de la brandy wine, de l'absinthe, large barrel boar.
C'est
grand,
quoi ça?
Grand sanglier rayé.
Ah oui?
Oui. Alors il paraît que ma prononciation est pas remarquable.
Oh, je suis pas remarqué. Moi, on m'avait dit que tu étais un pêcheur, mais en fait, tu es plutôt un cultivateur.
J'étais un pêcheur. On l'est à vie comme ministre, mais la pension n'est pas tout à fait la même, si tu veux.
Donc, du coup, tu as besoin de faire pousser tes tomates.
Mais je suis quand même un pêcheur.
Et c'est aussi ton petit coin, là, où tu te poses, parce que là, tu as un journal.
Je lis mon journal. Tu vois, dans la serre, dès que ça, il y a un petit rayon, hop, ça tape. Et puis, moi, j'ai besoin de lumière. Dès qu'il y a un petit rayon, il faut que je sorte.
Quand on est sur un bateau, c'est parce qu'on aime être dehors, quoi.
Ben oui, dans les éléments, quoi. Dont la lumière est un des principaux.
Comment est-ce que tu as su que tu allais être marin et que c'est, tu voulais en faire ton métier?
D'abord, mon père n'était pas du milieu, mais il avait été élevé par sa mère seul dans le milieu des pêcheurs d'Urville. Et donc, j'étais quand même très tôt bercé dans l'amour de la mer et par mon père, qui était un fou de pêche aussi, pêche en mer, j'ai chopé le virus.
Qu'est-ce que t'aimes justement dans la pêche, dans cette liberté peut-être qu'on a quand on est sur l'eau?
Ben j'aime tout, le côté trac, le côté recherche, le côté piégé à l'animal.
Côté pour, chasseur quoi.
Ouais, chasseur, pour se nourrir d'abord, principalement. Voilà, avoir compris comment il fonctionnait, pouvoir le choper, tout ça. Puis j'aime la mer par-dessus tout. Et quand j'ai commencé, on n'avait pas de positionnement, de GPS et tout ça. Donc t'imagines, quand je filais des casiers, j'ai la tête sous l'eau, quand j'ai la tête dans le fond de l'eau, j'ai la tête là où ils vont atterrir, c'est l'imaginaire d'abord.
Tu projettes ton esprit sous l'eau, quoi?
Oui, c'est ça. Bon, après, t'acquiers de plus en plus de connaissances, mais...
Tu connais les coins, quoi.
Oui, mais au début, tu sais, je connaissais rien du tout. Hein. Et ça pourrait être simple. Tu lis des cartes marines, tout ça, tu dis, bon, là, attends, il y a les lignes de sonde, tout ça, qu'est-ce qui se passe sous l'eau, comment c'est foutu, qu'est-ce qui peut passer comme espèce, les homards, où est-ce qu'ils sont, et puis après, t'apprends les saisons, progressivement, les migration et tout, des périodes de vaches maigres, des périodes de creux, des périodes où tu dis, bon, je me suis planté, c'est pas là que ça se passe, mais, et puis des périodes où, hop, tu tombes dedans, c'est formidable, quoi.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ICI Lorraine.
On sait qu'on est lorrain parce qu'on prend des obus pour des cèpes.
C'est une histoire qu'on m'a raconté.
Ça va aller dans les Vosges. Non, du côté d'Amnéville. Non, j'ai croisé Frédéric, le Fred Kunz. Vous le connaissez?
Non.
Il est maître d'école à Amnéville.
Ben pas.
Il m'a raconté ses aventures, ça va rappeler des souvenirs à tout le monde.
Allez-y.
Lorsque, adolescent, il partait en vacances en mobylette. Mm-hmm. Trajet à Gondange, Niederbronn-les-Bains, 150 bornes en cyclo. Largement de quoi faire cuire le steak sous la selle, comme Attila le Hun.
Mon père faisait Paris, le Jura, en vélo.
Ouf, en vélo?
En mobylette?
En mobylette. Ah bah ouais, on est ça, et qu'est-ce qu'il avait comme mobylette?
Ça devait être un 103 à l'époque, ça devait être ces mobylettes-là, je pense.
S'ils étaient déjà là, ouais. Ou un Solex.
Non, mobylette.
Ok, le Fred, il partait avec Bernard, dit Bébert, le Mac, le Bled. Le Bled, c'était son nom, pas la destination de ses vacances. Et Mounir, qui aurait dû être au Bled. Et Mounir, le passager de dernière minute, qui s'était dégoté une cacahuète improbable pour se joindre à l'équipage. Une mini-moto, vous savez? Il fallait laisser refroidir toutes les bornes, l'enfer. Fred m'a dit il avait l'air d'un singe sur un paquet de tabac. Mais une vraie équipée sauvage que ceux-là. Et puis ces bandes-là, ça roule en triangle, comme les oies sauvages. Pour ceux qui ont une meule moins puissante, profite de l'aspiration. Comme mon Fred, il avait une 103 SPR, refroidissement liquide et carbut 17.
Oh la vache.
Autant dire qu'il roulait en tête. Sourire béat, les dents éclatées de moustiques, en route pour le camping, la gloire et les grandes découvertes. Parce que ces types-là étaient des chercheurs de trésors, des fanades de la Seconde Guerre mondiale, le genre qui arpente les champs et les forêts, poil à frire entre les pognes, à la recherche de vestiges. Résumé des vacances par le principal intéressé, je cite le Fred, 2 points ouvrez les guillemets, on allait chercher des bricoles,
qu'on ne trouvait jamais. Des chercheurs du trésor au pied de l'arc-en-ciel, en somme.
C'est joli, ça.
Tente plantée à Sturzelbrunn. Oh la vache, c'est pas facile, si tôt le matin. Le Beecherland comme terrain de jeu. Les gars vivent la grande vie. Pique-nique tous les jours, et peu importe les guêpes qui les taquinent, ils découvriront que le dernier jour que le nid était précisément sous la table du déjeuner. Les gars, ils s'en foutaient. Les grands soirs, ils sortent au casino de Niederbronn. 15 kilomètres en brêle à travers les bois. La 103 devant, Mounir loin derrière. Vers la fin du congé, alors qu'ils zonent dans un coin qu'on leur a vendu pour être un coin à champignons, ils se baissent pour ramasser des cèpes, et là, bingo, tout un tas d'obus et de munitions de la guerre de 14. Pompiers, gendarmes, démineurs, les ados sont au comble du bonheur. Des vacances 100% Lorraine, plus locales, tu meurs.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast Ici Provence.
Je rêvais d'avoir une maison à la campagne. Cette maison, c'est comme si j'y étais née. C'est ma maison de famille.
Ma maison s'appelle l'Ostau de la Mar.
C'est une maison un peu envoûtante.
Eh bien, vous voyez, des livres et trois fenêtres qui me donnent le paysage du pays, comme si c'était trois tableaux.
Ils ont vécu ici.
Thibaut Gaudry.
Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline.
En juillet 1968, Huguette Carin, présidente du comité des fêtes du charmant village de Cotignac, écoute son transistor quand elle entend Joe Dassin chanter « Siffler sur la colline ». Et c'est là que germe une idée un peu folle.
J'ai demandé donc au maire, je lui ai dit « Qu'est-ce que vous pensez si nous donnions un terrain de Cotignac, si toutefois la mairie est d'accord, pour que Joe vienne chanter ?» Et il me dit « Bon, ben d'accord, fais-moi une lettre, je vais le proposer. » Ce qui a été fait et accepté. Donc, il est venu chanter une vingtaine de jours après. Et dès qu'il avait un gala sur la côte, il venait coucher chez nous. Et voilà comment ça s'est passé.
Joe Dassin donne un concert mémorable le 12 août 1968 dans la cour de l'école. Après sa prestation, Huguette l'accompagne visiter le terrain proposé. Un bel emplacement que le chanteur estime néanmoins trop proche du village. On lui en propose alors un autre, dans le quartier Saint-Joseph, sur les hauteurs, près d'un monastère. Enthousiaste, il l'accepte illico. Séduit autant par le lieu que par son nom. Il faut dire qu'il s'appelle Joseph Dassin.
On s'était fait les poches pour se payer un vieux taco fleuri sur le capot qui rêvait de Provence et qui mourut à Fontainebleau.
Joe ne fera construire une maison sur le terrain que 10 ans plus tard. Mais il revient souvent à Cotignac et loge au Loucalen, l'hôtel-restaurant créé par Huguette en plein cœur du village. Il y prend toujours la chambre 6. Loucalen, où l'on peut croiser les Pink Floyd ou Yvonne de Gaulle. Et la chambre 6, où Joe dormira le 14 janvier 1978, mais pas seul.
Joe Dassin va chanter dans un instant. Joe Dassin a vécu hier un moment important dans sa vie, puisqu'il s'est... un moment troublant. Il avait sans doute plus le trac hier à Cotignac dans le Var que sur scène, devant Monsieur Martin, le maire de la localité, qui a uni Christine et Joe pour le meilleur et pour le pire.
Après avoir hésité avec Tahiti, c'est finalement à Cotignac que Christine dit oui à Joe. Ce jour-là, ce n'est pas vraiment l'été indien, mais un déluge, qui cependant ne gâchera pas la fête pour les 500 invités conviés par le couple. On chantera une partie de la nuit, un concert improvisé qui se terminera en duo avec l'ami Serge Lama.
Samedi 14 janvier, contrairement à l'habitude, il pleuvait sur Cotignac. Étaient-ce les larmes des admiratrices de Joe Dassin qui, ce jour-là, épousaient dans la mairie du village la ravissante Christine Delvaux? Enfin, malgré le mauvais temps, tout Cotignac était là, dans les rues, aux abords de la mairie, pour saluer celui qu'il considérait maintenant comme un enfant du pays, puisque Joe Dassin y possède une fort belle maison. C'est monsieur le maire en personne qui, vers 15h30, procédait à la cérémonie, ponctuée par le crépitement des appareils photos, tandis que la musique des sapeurs-pompiers de Brignoles interprétait les succès de Joe Dassin.
On ira où tu voudras, quand tu voudras.
Pour le dessert, un pâtissier a créé un gâteau géant, reproduisant la maison que Joe vient de faire construire, dans la Pinède, en haut de la colline. Si un jour, vous allez visiter Cotignac, labellisé plus beau village de France, et que vous souhaitez dormir au Loucalen, demandez la chambre 6.
Et l'on s'aimera encore, lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareil à ce matin.
Ici.
actu locale, musique et bonne humeur.
Souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qui brille d'amour au quotidien. Toute une vie s'offre devant vous, tant de rêves à vivre jusqu'au bout, sûrement tant de joie au rendez-vous, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera votre voie et où celle-ci vous emmènera. J'espère juste que vous prendrez le temps de profiter de chaque instant. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qui brille d'amour au quotidien. Chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. On vous souhaite tout le bonheur du monde, oh oui, tout le bonheur du monde. Que votre chemin évite
Écoutez ici la nuit et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Paris-Île-de-France.
À Aubervilliers, Sèvres ou encore rue Fédère dans le 11e arrondissement de Paris, les Baltos sont encore bien présents dans notre région et Thierry Boeuf nous en fait la cartographie, au-delà bien sûr de nous raconter leur histoire. Voici la saga Bistrot de Paris.
Et le cocktail américain, c'est quoi ?
C'est un cocktail grillé avec une sauce américaine, tomates, échalotes, une pointe de cognac, du vin blanc, c'est un peu relevé.
Un décaen !
Pâté, jambon, c'est du canvillette, gruyère, chantal, rosbif, jambon de pays.
Eh ben tout ça, ça va aller dans la blanquette.
Bon appétit.
Cigarette. Cigarettes, whisky et petites pépées, si vous les aimez bien roulées, papier à cigarette, OCB. Gitane de Gainsbourg, menthol extra cool de Françoise Sagan, ronde fumée, et puis un jour de smog, 1er janvier 2008, tout s'est évaporé, les volutes et brouillards au comptoir ont disparu.
On a fait une soirée pour que tout le monde fume, donc musique, et puis on a mangé, et on l'a tous fumé. Mon collaborateur et moi, on n'a jamais fumé de notre vie, donc on a fumé une gitane maïs. Plus jamais on fumera. Hein.
Alors les fumeurs étaient priés d'aller fumer aux terrasses des cafés, le plaisir devenant coupable. Mais encore aujourd'hui, les marques de cigarettes font toujours enseigne. À Paris comme en banlieue, il existe encore, par exemple, des Marini.
30 paquets de Marini.
Mais aussi des Rally, des Chiquito, des Nemrod et des Balto. 1930, la CEITA, Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et des Allumettes, propose aux patrons de café une aide financière. Des ameublements, des comptoirs, des terrasses. En contrepartie, l'établissement aura pour nom une marque de cigarettes ou de cigarillos. La puissante CEITA en rajoute une couche dans la presse populaire et la radio. Écoutez cette chanson publicitaire phénoménale de la marque Balto.
J'ai vu sur le paquet qu'il y a un bateau à voile. C'est à cause du bateau que c'est des bateaux qu'on les appelle. Mais non, bon gros bêta, pas des bateaux, mais des Balto. Des Balto, c'est un mot qui vient de Baltimore.
Balto de Baltimore, imparable voyage et exotisme au bout de sa cigarette rougeoyante. Et voilà pourquoi il existe encore une bonne vingtaine de Balto à Paris et en Ile-de-France, comme celui d'Aubervilliers ou de Sèvres. Idem pour le Nemrod, rue du Cherche-Midi dans le 6e. Tout pareil pour le Rally, la cigarette qui arrive avant les autres et qui gagne, rue Faidherbe dans le 11e. Le Rally, où au passage, Monsieur Philippe nous régale de délicieux choux farcis. Curiosité amusante, au 59 avenue de la Motte Piquet, un restaurant a pour nom la Gauloise, tandis qu'à quelques dizaines de mètres, boulevard de Grenelle, une autre brasserie se nomme la Gitane.
Avec filtre ou sans filtre, les Gitanes Caporal vous apportent sans réserve le plaisir de fumer.
Décidément, beaucoup de cafés-bistrots du bassin parisien ont succombé à la tentation. Après la cigarette, le jeu. Impressionnant le nombre d'établissements qui s'appellent le Vincennes, le Sulky ou le Longchamp. Témoin de la relation entre les bars PMU et le milieu mercantile des chevaux de course.
Tu es avec Christine, ma femme ? Si tu savais ce qu'elle joue,
elle y connaît rien. Mais elle y croit, et entre nous, ce qui m'épate, c'est qu'elle gagne aussi.
La comprendre, Charles. Avec le PMU aujourd'hui, on joue comme on aime.
Oui, on pourrait largement faire une thèse universitaire sur les enseignes de bistrot, la poésie frise Le Bon Coin de ce cher Jean-Louis Brasse dans le 18e, sans oublier le mythique Au rendez-vous des sportifs chez Valzac, un cadre de la boxe dans le 15e. Mais la palme d'or revient à ce patron en Val-de-Marne qui avait baptisé son bistrot dans les années 50 ici, mieux qu'en face. En face se trouve la célèbre prison de Fresnes.
Ce qui ne freinera pas notre appétit pour autant, bien sûr. Merci beaucoup Thierry Boeuf, Bistrot de Paris. Si vous avez aimé cette chronique, vous pouvez la partager avec vos proches depuis l'application Ici.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast Ici, Pays d'Auvergne.
Je vous emmène à Gergovie et je vous promets d'avoir un petit peu de vent dans la crinière puisque nous allons faire la connaissance d'une association très utile, SOS Cheval. Mireille Vor qui nous accueille ici à SOS Cheval. On est dans un petit mobilhome sur le terrain, en pleine nature. Là, on s'occupe des chevaux. Mireille, SOS Cheval, vous nous en dites quelques mots ?
Oui, bien sûr. Bonjour Patricia.
Bonjour.
On recueille les chevaux retraités ou réformés de centres équestres, de courses, de laboratoires, des anciennes poulinières, des équidés maltraités, abandonnés, divagants, chacun a sa propre histoire.
C'est votre cheval de bataille, si je puis dire, mais vous n'êtes pas toute seule, évidemment, parce que là, il faut plein de bénévoles pour s'occuper de tous ces chevaux.
Absolument. Nous ne sommes que des bénévoles, 60 bénévoles, tous complètement investis et ne ménageant ni leur temps, ni leur peine.
Et une petite dame à côté, là.
Denise. Bénévole du lundi matin depuis, je sais pas, 6, 7, 8 ans. Notre mission, c'est de nourrir, vérifier que les chevaux n'aient pas de blessures, regarder si le foin est bien à disposition, de l'eau, et tout va bien.
Alors, on y va. On était dans le mobilhome, là, parce qu'il y a un petit peu de vent. Donc, du coup, on s'était mis un peu à l'abri. Bonjour, Sandrine.
Bonjour.
Vous aussi, alors, je vous vois affairée avec des carottes et des pommes.
Oui. C'est parce que quand je vais voir nos petits protégés, ben, des fois, on leur fait quelques petites gâteries comme ça pour, voilà, pour les amadouer, pour leur donner confiance, pour ça sert à tout, les carottes, pour les soins.
Mais il y a de surface là à peu près 16 hectares.
Alors lui, c'est le plus jeune de ce pré-là. Et il est très jaloux si on s'occupe des autres. C'est un réformé de course. Il vient de Normandie. Et lui, il a eu une fracture au niveau de l'épaule, de la clavicule. Donc, il est réformé. Mais du coup, il est très, très, très demandeur et très jaloux aussi. Voilà, il ne supporte pas que Nolo s'approche de nous parce qu'il veut qu'on s'occupe que de lui.
On n'a pas l'impression de parler d'humain un peu parfois.
Si, totalement. Si. Avec beaucoup plus de sensibilité. Là, c'est Cheyenne. Une petite jument aussi qui est en retraite. On en a beaucoup, beaucoup qui viennent finir leur vie chez nous. Et comme ça, ils ont une jolie fin de vie.
Avec des gens qui, manifestement, sont particulièrement bienveillants.
Ah, c'est le mot sacré, respect et bienveillance. Oui, sinon, il ne faut pas venir.
Viens voir bébé. Viens.
Kira, on a été appelé par les gendarmes. Une famille qui avait beaucoup d'animaux. Et ces personnes, quand elles ont su que les gendarmes arrivaient... elles s'en sont pris aux animaux. Et elle a eu 5 coups de couteau dans le poitrail.
J'en emmènerais bien à la maison, mais je manque un peu de place. Quand on ne peut pas devenir famille d'accueil parce qu'on n'a pas de terrain, on peut devenir famille de cœur et parrainer un équidé.
Alors ma belle, tu veux que je sois ta tata?
Ça serait une très gentille filleule.
Oui.
Ils ont travaillé toute leur vie au service de l'homme, et ça serait quand même profondément injuste qu'ils partent à l'abattoir. Donc nous, on est là pour eux.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Occitanie.
Adicia pour le monde, oui, notre expression du jour, est-ce ou est-ce entre Gallia et Rabastens en français? Bon, c'est assez simple à comprendre.
Oui, même moi j'ai compris.
Ben oui,
être entre Gallac et Rabastens.
Voilà, cette expression, vous pouvez l'utiliser quand une personne a abusé d'un peu trop de vin, des billes, loubi. Alors, qui, mais je dis le vin, mais ça peut être quelque chose d'autre. Notre alcool, il est entabé, qui sera, à quelle personne entre Gallia et Rabastens.
Ouais, alors, toujours avec modération, on est d'accord, mais c'est quand quelqu'un est un petit peu peut-être, voire beaucoup pompette.
M'avez entendu, vous avez compris. Ouais. Balmain et qui buffait pas, il n'a le coup test. Il vaut mieux que cette personne ne souffle pas dans le ballon. À qui? Ouais. Pour revenir à l'expression, il y a à Bistodenaz, 20 km entre Galliac et Rabastens. Donc ça fait 20 km environ. La route est un peu sinueuse entre Galliac et Rabastens. Et surtout, elle longe le vignoble gaillacois, d'où l'origine de l'expression est entre Galliac et Rabastens.
Jaro, il y a d'autres expressions dans le même style?
Ben, utsita gascu, qu'est-ce qu'on dit, per exemple, cacargata madira. Littéralement, il a chargé à Madiran. Le vignoble de Madiran se situe en Gascogne, aux confins des départements du Gers, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques. Aoué ou abé cargat à Madira, littéralement, donc avoir chargé à Madiran, c'est être ivre, tout comme être... Este beuet, et beuet du verbe beuet, beuet qui veut dire boire en occitan gascon.
Ici.
Tennis ball, do a ceiling fan, bet you never end up falling.